Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
Et c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est ça, et ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphie, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Bonjour à Tom et Alice qui sont à la technique et qui peut-être poseront des questions. Et notre invité aujourd'hui, c'est Asto, qui est résident des ateliers Ernest Michel hébergé par l'association Line-Up. Salut Asto.
Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans ce nouvel épisode.
Merci.
Alors aujourd'hui, pour vous refaire un petit topo, on va aborder le parcours professionnel et artistique de cet artiste. Son style, son univers, et puis il va nous parler un petit peu de comment il en est venu à s'approprier ce style si particulier pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, Asto, tu as démarré avec le graffiti, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Ça s'est passé comment? En quelle année?
Alors, c'était en CM2.
Ouais,
c'était à la fin de l'école primaire. J'avais un copain qui avait un grand frère qui était graffeur.
Ouais.
Moi, mon grand frère, il était aussi. Et du coup, on s'est retrouvés pendant les récré et tout ça. En période hivernale, dans le genre de cafette, a commencé à essayer de faire des graffitis sur papier.
Ah d'accord, ok.
Et c'est né comme ça.
Ok. Purée, CM2, ça fait jeune, je pensais pas que tu t'étais...
Ça fait 22 ans.
On donnera pas l'âge de cette personne. d'accord, donc t'as commencé à esquisser sur papier. Est-ce que t'avais déjà une idée d'un blaze éventuellement?
Non, au début, on a commencé avec les prénoms des copains, copines, les nôtres aussi.
Ouais.
Et puis, c'est vrai que le sujet du blaze est vite arrivé sur le tapis. Du coup, un peu comme tout le monde, on a cherché les compositions de lettres, tout ça.
Et oui, et les lettres qui passaient le mieux.
Exactement. Et puis aussi, les autres graffeurs essayaient de ne pas trouver le même nom qu'un autre.
Ah
donc,
oui.
Vérifier que ça ne soit pas pris et tout ça.
C'est vrai. Et ça demande vachement de recherche quand même.
Ouais. Et du coup, moi, j'ai repris deux lettres du blaze de mon frère.
D'accord.
Et puis j'aimais bien le fait que ça commence par un A, et puis le S, je trouve qu'il y a une belle dynamique et tout. Donc c'est parti sur ASTO très jeune, quoi.
D'accord. Et le S, ça revient beaucoup hein, chez les graffeurs. C'est une lettre qu'ils aiment bien s'approprier, ouais. D'après ce que j'ai compris.
Elle est facile. Enfin, c'est une des plus simples pour moi à travailler et à déformer, quoi.
Oui, dans n'importe quel style,
ouais.
Tu veux dire. Ok.
C'est ça.
Et donc du coup, CM2, donc t'as 11 ans.
Ouais, 11 ans.
Et donc tu te mets comme ça à trouver ton blaze, à esquisser tout ça sur des feuilles. À quel moment tu fais la transition sur un mur?
Et ben ça, c'était en 5e, donc à 12-13 ans. Donc le grand frère de mon pote avec qui j'ai commencé était vraiment plus âgé que nous. Il avait sa maison, tout ça.
Mm-hmm.
Et c'était à Cournon-Terral et il y avait une vieille usine désaffectée.
Ooh.
Qu'on appelait l'entrepôt. Et donc, il nous a amenés là-bas, je ne sais plus, c'était 2003-2004, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, le premier graffiti là-bas.
Okay.
Les premiers graffitis là-bas. Donc, on allait passer le week-end finalement en garde chez le frère de mon pote. Et puis,
oui.
La journée, on allait essayer les bombes de peinture sur les murs.
Et ouais, donc là, c'était du coup, tu commençais à prendre possession de cet objet.
Exactement.
De la bombe. Et est-ce que tu avais, comme certains, tu avais esquissé un peu ton graffiti sur une feuille pour pouvoir le reproduire
Je pense que sur les premiers, ouais, on était avec le papier à côté, essayer de refaire exactement la même chose et tout.
Ouais.
C'était pas fameux. J'ai, j'ai des photos des premiers graffitis. Il faudrait que je te montre un jour.
Ah oui, avec grand plaisir. Et donc, pendant toutes ces années, pendant longtemps, après, tu sais, quelque chose que tu as développé ou que tu as pris goût, j'imagine
Exactement. Après, pendant tout le collège et le lycée, j'ai continué, en fait, pendant les cours, à esquisser tout le temps.
Mm-hmm.
J'étais assez bon élève, donc ça allait, on me laissait un peu faire. Mais du coup, ouais, j'esquissais. Puis le week-end, on avait un mur autorisé au Cress. Donc le week-end, souvent on allait peindre là-bas.
D'accord, genre de Graff Park.
Ouais, un petit truc qui avait été plus ou moins laissé pour mon frère et ses amis.
D'accord.
Je sais pas comment ils s'étaient retrouvés là-bas, mais peut-être qu'ils connaissaient le propriétaire ou quelque chose comme ça. Et du coup, ils avaient l'autorisation pour peindre ce mur, donc nous on était sur ce mur affilié, quoi.
Eh oui, forcément. Quelle influence. donc pendant du coup de nombreuses années et jusqu'à il n'y a pas quand même tellement longtemps en fait, tu as continué à graffer un peu partout ou t'es resté vraiment, enfin c'était un peu...
Moi je suis resté un peu les villages au nord de Montpellier.
Ok.
Ouais, tout collège, lycée on va dire. On avait fait une sortie à Montpellier, mais pour nous c'était... On était jeunes, on n'avait pas le tram à l'époque et tout, donc c'était pas évident. Mm-hmm. Et puis après, au lycée, j'ai été perquisitionné chez moi.
Oh
donc, maman surtout, elle n'était pas contente. Mais pour pas grand-chose finalement, pour des taxes surtout, en fait, sur des panneaux de signalisation et tout ça. Et c'est vrai qu'après, je me suis essentiellement concentré sur une activité plus légale, donc à faire les murs autorisés, aux crèches, aux verdansons et des choses comme ça. Quoi.
C'est ça, oui, je sais. Perquisitionner quand même, c'est
mais
pas rien.
Franchement, c'est incroyable. Mais même des policiers que j'ai rencontrés plus tard et tout, à qui j'en ai parlé, ils m'ont dit, mais c'est du jamais vu, quoi. Un gosse de 16 ans qui a rien fait, en fait. Parce que je faisais pas de train, je faisais pas d'autoroute, je faisais pas des trucs hyper visibles.
Oui,
c'était sur les petits villages, il y avait des tags sur quelques murs, sur des panneaux de signalisation. Mais sinon, c'était dans la forêt, des maisons abandonnées, des trucs, c'était rien d'incroyable, quoi.
Bon, du coup, t'as mis un petit frein.
Donc, ouais, papa et maman, ils m'ont un peu tiré les oreilles. Et puis, je me suis... De toute façon, j'étais quand même pas hyper actif sur les sorties de nuit. Hein. J'étais jeune et tout. Donc, j'ai continué à esquisser au lycée et puis un petit peu par la suite pendant mes études.
Ok.
Et c'était beaucoup de papier, finalement.
Ok. Jamais de train ?
Jamais un train.
Ah ! Vous le voyez pas, il sourit, mais quand même, un train. Un train, quand même.
Un train.
Ah ouais.
Dans l'Aude.
Ah, bon, ça va, c'est loin. et du coup, pendant cette étape où tu faisais peut-être un peu moins de murs, mais que tu esquissais beaucoup, est-ce que c'est là que tu as commencé un peu à faire évoluer ton style pour le peaufiner et arriver un peu à ce que tu fais maintenant ?
Exactement. En fait, donc au lycée, j'ai commencé à faire des toiles, mais graffiti, quoi.
D'accord.
Un peu old school. Il y en a une à l'atelier, justement, que le public peut découvrir de temps en temps. on voulait me l'acheter aux dernières portes ouvertes. Ah. J'ai refusé, c'est quand même une vieille toile.
Elle est collector.
Et donc, un jour, j'avais fait une toile un peu esprit graffiti, quoi. Et puis, elle ne me plaisait pas, je voulais repasser. Et j'avais un ruban de scotch. Et j'ai commencé...
Ah,
à faire en fait des lignes et des formes géométriques finalement sur cette toile.
Ok.
Et c'est né comme ça en fait.
Et c'est venu comme ça.
Ouais, c'est
incroyable.
Venu comme ça. Ça m'a bien plu parce qu'en fait dans le graffiti, moi tu me connais, je suis assez exigeant et
c'est pas vrai.
Minutieux tout ça. Donc je passais un temps fou à retailler mes graphes pour que ça soit nickel à chaque fois.
J'allais dire oui, te connaissant, ça devait quand même te prendre un certain temps de poser un graffiti en fait.
Ouais, c'est pour ça que j'aime bien les flops parce que ça va vite et qu'il y a beaucoup moins de retouches. Mais c'est vrai, à faire un vrai graphe, je passais un temps fou à tout retailler c'était un peu chiant finalement.
Il y a
moins ce jeter quoi qui est cool avec les bombes de peinture.
Et ce moment aussi, c'est peut-être ce côté un peu spontané et instantané où on va le faire quand même assez vite parce que bon, on sait jamais trop ce qui peut se passer. Et toi, du coup, ça te prenait du temps comme si tu étais en train de réaliser une fresque en fait, presque.
Quasiment. Quand même pas comme maintenant.
Non,
mais
quand même pas comme maintenant.
Et voilà. Et du coup, ouais, le scotch, ça m'a plu. Le résultat était quasiment impeccable. Il y a quelques bavures que maintenant je sais
que tu maîtrises. Éviter.
Mais voilà. Ça je crois que la photo, elle est sûrement Instagram de la première toile
réalisée. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur Instagram. D'ailleurs, vous avez le lien sur la page du podcast. Alors, tu as fait des études parce qu'en fait, tu n'as pas directement été l'artiste que tu es aujourd'hui. Tu as fait des études et tu étais économiste de la construction dans un cabinet d'archi.
Exactement. Alors, j'ai fait un BTS études d'économie de la construction en alternance à Nîmes, année 2010 à peu près. Et pendant ce BTS, bah, comme au lycée, tout ça, en fait, je continuais à dessiner et tout ça. Et là, j'avais sorti pour le coup ma règle et mon équerre, quoi. Mon papa, tout ça, les outils pour faire de la géométrie. Et donc j'ai continué ce style, j'ai continué à faire des tableaux aussi chez moi, quoi, dans mon petit studio, tout ça. Et c'est vrai que pour revenir au côté scotch et tout ça, un peu à la même période, j'ai découvert le travail d'artistes américains, on va dire, comme Augustine Coffey, Rémi Rauch, qui est plutôt anglais, je crois, et qui avait fait... Il y avait une grosse fresque au Canada qui m'avait marqué, qui était un peu dans cet esprit graffiti géométrique, quoi.
D'accord.
Et donc, ça aussi, ça m'avait quand même donné un... Enfin, j'avais vu que les graffitis, c'était plus simplement les tags et les graphes qu'on
ça
voyait dans la rue.
Ça pouvait être autre chose.
Et différent. Et c'était un courant, justement, que Augustine Coffey avait appelé le graffiturisme. Donc, je m'étais plus renseigné, intéressé au sujet. Et donc, pendant mes études, j'ai continué à dessiner de manière géométrique, comme on peut le voir maintenant. Et donc, après ces études, je suis passé rapidement donc, dans un gros cabinet d'architecture montpelliérain qui s'appelle A+ Architecture.
On leur dit bonjour d'ailleurs, s'ils nous écoutent.
J'y suis passé en 2014, après je suis reparti, j'avais un atelier à Jacou et puis je faisais des missions pour d'autres sociétés en tant qu'économiste de la construction. Et en 2017, en même temps que finalement j'ai intégré les ateliers Ernest Michel avec Lineup, je suis retourné chez A+ Architecture pendant 4 ans.
Ok. C'est assez original comme parcours. Comment tu as eu l'idée de te dire j'ai mon boulot d'économiste de la construction, mais en même temps, j'ai quand même envie d'avoir un atelier parce que tu avais quelque part au fond de ta tête l'envie de te lancer là-dedans à 100% et tu t'es dit il faut que je le développe même si je bosse à côté.
C'est tout à fait ça. Je savais que ça aurait été compliqué de me lancer directement en tant qu'artiste par manque d'expérience, par manque de projet.
Manque de moyens aussi.
De moyens et tout. Et donc, j'avais quand même fait ces études. J'avais commencé à travailler, tout ça. Et c'est vrai que je voulais avoir aussi une indépendance financière pour pouvoir créer finalement ce que je voulais sans devoir répondre à une demande quelconque.
À une demande, ouais. Okay.
Être libre de ma création,
de
finalement.
De créer ce que tu voulais.
Sans avoir de pression financière, sans tout ça, quoi.
Ok.
Donc, ça s'est bien passé. Et donc, chez A+, j'avais négocié un temps partiel aussi. Je pouvais aussi prendre des congés sans solde et tout ça pour réaliser les fresques, les expositions que j'avais à préparer, tout ça. Et du coup, c'était en très bonne entente, finalement, avec mon patron de chez A+. Et puis mon planning professionnel et tout ça, quoi.
Enfin, le planning professionnel et les projets artistiques qui pouvaient arriver. On va faire une petite pause musicale avec un morceau que Asto aime bien écouter dans son atelier. C'est un morceau de Leon Bridges et on revient juste après ça.
The things that you do to me. Time moves slower when I'm in your galaxy. Stop thinking it over, you might change your mind. Pull you a little closer, one step at a time. Hanging on your words, I don't care if they're lies. You don't know that you got me feeling like. Oh,
retour avec Asto dans cet épisode de Terrain Vague. Juste avant la pause, tu nous évoquais du coup ton arrivée aux ateliers Ernest Michel avec l'association Line-Up. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé, par quel biais, comment tu as connu tout ce petit monde ?
Alors, je connaissais Line-Up par les réseaux sociaux, je pense, et par le monde artistique, finalement, montpelliérain. Et en 2017, du coup, je pense qu'il y a eu la cousinade numéro 5 au Vert d'Anson, si je ne dis pas de bêtises.
Tu nous expliques rapidement ce que c'est la cousinade ?
La cousinade, c'était un rassemblement de graffeurs dirigé un peu par Kenz, et je ne sais plus s'il y avait d'autres co-organisateurs cette année-là, qui avaient invité du coup tous les graffeurs montpelliérains de la région. Il y avait des amis à lui bordelais, tout ça. Et du coup, on était, je ne sais pas, peut-être entre 60 et 100 graffeurs dans le Vert d'Anson à faire une fresque collective, et je crois que le thème c'était sur la galaxie, okay. Cette année-là. Et donc là, sur ce week-end, j'avais rencontré des artistes qui étaient, je crois qu'il y en a un qui était à l'atelier Ernest Michel. Mm-hmm. Je connaissais déjà quelques artistes qui étaient sur place, et en fin d'année, du coup, je les ai recroisés en ville, et il y avait Nubian qui partait quelques mois à New York.
Et qui laissait son...
Et qui laissait une son... place, du coup, libre dans les ateliers, qui partageait avec Coléos à l'époque. Et donc, je suis allé remplacer Nubian pendant son séjour à New York, pendant 3 mois, je crois. Et au retour, quand il est rentré, je pensais retourner ailleurs, chez moi. Ou... À l'époque, j'avais un atelier à Jacou, mais vu que je travaillais à Montpellier, que j'avais mon appart à Montpellier, tout ça, c'était plus simple d'être sur place. Et donc, quand il est rentré, en fait, ils m'ont dit non, tu peux rester, on va serrer place. Un petit peu. Ouais. Mais on était 4 dans l'atelier, où on est 2 aujourd'hui avec Adrien.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Donc, c'était serré.
Après,
vu que je bossais la semaine, j'étais pas beaucoup là, quoi. Ouais. J'étais là le soir ou le week-end.
Parce qu'il leur laissait de la place quand même pour bosser. Okay. Ah oui, 4. Bon, ceux qui sont venus déjà à des journées portes ouvertes ou qui ont visité les ateliers peuvent se rendre compte un petit peu de l'espace. Mais c'est vrai que 4, ça fait quand même. Ça fait du monde.
Une pièce qui doit faire 35-40 mètres carrés.
Oui.
C'était serré, fallait trouver. Voilà. Bon, j'avais moins d'affaires à l'époque aussi.
Oui. Voilà, tu as plus la place de t'étaler un peu mieux. Alors, tu travailles aujourd'hui, donc on a évoqué effectivement les fresques, tu participes à des projets, en l'occurrence souvent pour Line-Up, mais pas que. Tu viens de réaliser une fresque à Pérol, d'ailleurs, dans le cadre d'un projet de Line-Up avec la ville de Pérol et avec Enedis. Mais tu bosses aussi donc en atelier, sur toile et sur des supports un peu atypiques, des scies notamment.
Des scies comment et tout autre objet tranchant sur des lames.
Mais pourquoi ? C'est ton côté un peu sadique.
Je pense pas que ça soit ça. Non, en fait, c'est un support que j'ai commencé à travailler il y a 7 ans, 8 ans, je sais plus, ça fait un moment maintenant.
Mais comment
J'aimais bien en fait la forme de la lame,
okay.
Qui est géométrique.
Oui, forcément.
Les petites dents qui forment des triangles et tout ça. Et j'aimais bien le côté upcycling de l'objet. Voilà, souvent, c'est des scies ou des couteaux ou des hachoirs qui sont chinés au marché aux puces et tout.
Et qui sont complètement rouillés et qui n'ont plus d'utilité mécanique, quoi, on va dire.
Avec des vieux manches en bois, souvent, oui, il manque des dents ou elles sont plus trop
en état de servir.
Ouais. Exactement. Et donc, je leur donne finalement une seconde vie, quoi. Et le fait de leur apporter le cadre noir et tout, ça leur donne la dimension d'œuvre d'art.
Oui, puis ça les met en valeur autre que l'objet, l'outil que c'est, ça devient vraiment une œuvre à part entière.
Et puis après, avec les couleurs aussi un petit peu pastel et tout ça, ça détourne vraiment l'objet de son utilisation principale. Mm-hmm. Ça l'adoucit aussi à la fois. Ça enlève ce caractère un peu agressif, quoi, de l'objet.
Oui, de l'objet tranchant.
De toutes ces lames.
Et tu fais aussi des objets en 3D, est-ce qu'on peut dire en 3D, que j'ai pu voir, par exemple, quand j'ai commencé à travailler chez Line-Up, l'exposition que tu as fait à la Galerie Saint-Ravier avec Sico. Il y avait des œuvres qui étaient en volume.
Des sculptures ?
Ouais, des sculptures. Ouais. On peut appeler ça des sculptures.
Ouais, c'est des sculptures.
C'est pareil, c'est encore une autre façon d'interpréter ton univers, mais sur quelque chose de différent. Comment t'es arrivé à vouloir faire, à vouloir sortir de la toile et des scies, et des objets tranchants pour faire ces objets-là ?
Alors, c'est vrai que le travail en volume, peut-être par l'architecture ou aussi toutes les expositions auxquelles on va et tout ça, c'est vrai que présenter différents supports et techniques, c'est intéressant. Et du coup, je voulais quand même, en plus du hachoir qui est planté dans la bûche, pouvoir présenter finalement des sculptures, des œuvres à poser. Mm-hmm. Ils se disaient aussi à un moment que les collectionneurs, ils avaient trop de tableaux, que finalement, ils n'avaient plus de place sur les murs et que c'était bien aussi de proposer des objets comme ça.
Oui, qu'on puisse poser, effectivement, pas forcément accrocher sur un mur.
C'est
quoi.
Ça. Mais du coup ça, pour réaliser ces sculptures-là, en fait, j'avais réalisé un prototype en bois. Et sur une exposition que j'avais réalisée au bureau Enco La Station, mm-hmm. Il y a une collectionneuse qui m'avait dit « Mais il y a un appel à projet pour réaliser les trophées pour le gala des ambassadeurs d'Occitanie en 2019. » Elle m'a dit « Ça marcherait trop, ce genre de sculpture et tout. »
Carrément.
Du coup, là, j'ai répondu à l'appel à candidature que j'ai gagné. J'ai fait 11 petits trophées comme ça. J'en ai fait un plus gros avec le même visuel. Mm-hmm. Et ça, là-bas, c'est des... c'est des formes géométriques, mais c'est que des lignes qui créent des formes géométriques, contrairement à ce que je fais sur tableau. Et c'était un style de tableau que je faisais justement autour de 2015, quelque chose comme ça, l'hiver chez moi quand je n'avais pas d'atelier. Mmh. Ça me permettait de faire beaucoup de travail en intérieur et je sortais sur ma terrasse pour peindre. Et puis le tableau était quasiment fini, quoi.
Okay.
Donc c'était vraiment ces lignes. Et ces lignes, je trouvais que ça... de les multiplier comme ça, parce qu'il y a quatre épaisseurs sur la sculpture dont tu parles,
oui.
Ça leur donne une autre dimension aussi.
Oui.
Et c'est vrai que dans mon travail, il y a quand même toujours cette histoire de dimension, de profondeur.
De profondeur, tout à fait. Qu'on peut voir, alors effectivement, souvent avec des tons, des mêmes couleurs, avec des tons plus clairs ou plus foncés, c'est ce que tu arrives à donner de la profondeur justement à tes toiles, à leur donner ce côté un peu 3D tout en étant complètement à plat, et qu'on retrouve dans ces sculptures justement.
C'est ça.
Et c'est le fait d'avoir fait ces sculptures donc, pour ces prix, cet appel à projet qui t'a donné envie, enfin tu t'es dit bah, c'est plutôt cool en fait, je vais continuer.
Ouais, exactement.
Ok.
C'est ça, j'aime bien le rendu finalement. Ça crée aussi de très belles ombres, mm-hmm. en fonction de l'éclairage.
De la lumière,
tout.
Ouais.
Donc, j'en ai pas fait beaucoup pour le moment, mais c'est quelque chose que j'aimerais continuer à travailler.
À développer, ok. Ouais. Et dans tes fresques, pour ceux qui connaissent ou ceux qui vont découvrir, par exemple, tu fais ce qu'on appelle des anamorphoses. Mm-hmm. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est. En quelques mots, de façon simple et claire, s'il te plaît.
C'est pas toujours évident.
C'est pas toujours facile, mais on pourra aiguiller nos auditeurs pour. Voilà, on pourra leur dire où est-ce qu'ils pourront en voir pour se rendre compte à quoi ça ressemble.
Donc, pour faire simple, pour moi, une anamorphose, c'est un visuel, une image que l'on va pouvoir observer d'un seul point de vue. Mm-hmm. Tout va se matcher. Ça peut être l'exemple que je donne en général, c'est par exemple un rond dans un angle avec deux murs et un plafond.
Oui.
Et ben, si on visualise le rond de notre point de vue fixe, ben, si on se décale d'un mètre à droite ou à gauche, ça le déforme.
Ça ressemble plus à un rond. Pour ceux qui sont curieux de savoir à quoi ça ressemble une anamorphose, il y a par exemple celle que tu avais réalisée dans le cadre de 34 degrés, le festival que Line-Up a mené pendant 3 ans avec la ville de Juvignac, qui se retrouve à l'entrée de la ville et sur un passage. Donc pareil, si on veut la voir comme il faut en entier, il faut être de l'autre côté.
C'est ça, il faut être sur le trottoir de l'autre côté de la chaussée.
Voilà, c'est ça, et se placer à un angle de vue particulier, et tout rentre dans l'ordre en fait, et on se rend compte.
Voilà, toutes mes formes, elles se réalignent quand on se met sur le bon point de vue.
C'est ça.
Et après, sur ce projet, il y a aussi deux anamorphoses à l'intérieur des escaliers,
oui.
Et une anamorphose côté haut du coup du passage des sauges.
Oui, des sauges, tout à fait, bien vu. voilà, ça donne une bonne idée de ce que c'est qu'une anamorphose. Pourquoi alors, rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, est-ce que c'est encore le côté distorsion et géométrie à la fois qui t'a donné envie de te lancer là-dedans? Comment t'as découvert ça?
C'est tout à fait ça. Comment je l'ai découvert, je ne saurais pas te dire. Il y a des artistes de renom qui sont Felice Varini et Georges Rousse, que j'adore, qui en font depuis des années et tout ça. Moi, je trouve ça intéressant de s'inscrire dans une architecture de ça fait un côté trompe-l'œil aussi. Mm-hmm. Tout ça, les perspectives et tout ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça,
okay.
ça m'intéresse, ça m'interpelle et j'ai envie de creuser aussi ces techniques-là.
tu veux bousculer un peu notre façon de voir la fresque classique. Et c'est plutôt cool. On arrive à la fin de cette émission, dans encore quelques minutes. Dans un futur plus ou moins proche, tu as pour projet, si je ne me trompe pas, d'avoir ton propre espace d'exposition à un moment donné dans ta vie.
Exactement. Alors,
comment on passe la, quel est le déclic, le basculement de l'artiste vers le galeriste, tout en restant artiste quand même, parce que tu n'abandonnes pas une carrière au profit de l'autre?
Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est sûr encore. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu toujours pensé finalement. Je m'étais dit à 40 ans, pour moi c'était loin. À 40 ans, si je pourrais avoir une galerie, ça serait cool. Donc peut-être que ces prochaines années il va y avoir du changement dans ma vie.
On espère.
Mais ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir promouvoir d'autres artistes. C'est vrai que je pense que c'est plus facile de parler du travail des autres que de son propre travail.
Toujours.
Le côté aussi événementiel, tout ça. Business un peu, oui, forcément. Il y a aussi, qu'est-ce que je voulais dire? j'ai quand même eu l'habitude d'avoir une double activité.
Oui.
Et c'est vrai que faire que de la peinture, des fresques et tout ça, j'aimerais bien, mais j'ai peut-être pas assez de demandes pour le moment non plus. Et je me dis d'avoir une activité parallèle qui serait liée à mon domaine artistique. Ça prendrait du sens, quoi.
Est-ce que même si tu avais, on va dire, un planning plus booké au niveau des projets, te connaissant, je pense que tu aurais quand même besoin de ce challenge un peu intellectuel, de te lancer dans une activité qui sollicite d'autres compétences, en fait.
Ouais, je pense que tu as bien résumé le truc.
Je te connais bien.
Il faut, ouais. C'est un challenge et je pense qu'à Montpellier, il y a tellement de jeunes talents aussi et puis partout en France finalement que je pense que les galeries en place, ils n'ont pas le temps non plus
d'avoir tout le monde, ouais, non, c'est compliqué.
D'explorer tous ces différents univers. Et donc peut-être que oui, une galerie de jeunes talents ou mixte, je ne sais pas, il y a des choses à envisager.
Ok. Bah on espère que ce sera bientôt et on espère pouvoir vous en dire plus très bientôt. Merci beaucoup Asto d'être venu dans ce nouvel épisode de Terrain Vague.
Merci à toi Laura, merci d'Agence pour l'accueil.
J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous dis merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.
Au revoir.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tel des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.